Salut à toutes et à tous, ici Zeni pour le 17ème épisode du Poké Freak Show. L'avant-dernier épisode de cette première saison en fait. C'est ouf, l'année est passée ultra vite. On a pu lors de ces 17 épisodes aborder énormément de sujets et vu beaucoup de mythologies, d'histoires épiques ou de faits scientifiques, toujours liés à une seule thématique, les Pokémon détestés ou oubliés. On a l'impression d'avoir tout abordé comme sujet autour de la création des créatures de poche, mais on va pas se le mentir, parmi les nombreuses grosses thématiques que nous avons abordées, nous en avons souvent utilisé une, à savoir les Pokémon objets. Pour rappel, il s'agit banalement de Pokémon possédant des traits d'objets existants dans notre monde, et qui seraient un manque d'originalité pour certains observateurs. Parmi les 16 épisodes sortis, plus le hors-série sur Meltan, 6 épisodes ont quand même été consacrés à ce type de créatures de poche. J'ai déjà bien étalé mes arguments sur pourquoi ces Pokémon-là ne sont pas si honteux que ça, en invoquant notamment un type de yokai dans l'épisode 13, à savoir les Tsukumogami. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, l'épisode sur Trépassable est toujours accessible sur le site de Ryadukawa, comme l'entièreté des épisodes précédents en fait, bien entendu. En tout cas, le thème des Pokémon objets nous ont même permis de parler de certaines thématiques fortes. Par exemple, l'épisode sur Miasmax a montré que Pokémon pouvait parler d'écologie. Mais malgré tout, il y a un truc dont nous n'avons pas évoqué dans tout ça. Est-ce qu'un Pokémon objet peut être utile? Dans le sens où il peut être utilisé de la même manière que l'objet dont il tire ses traits? C'est vaguement évoqué dans l'épisode sur Morpheo où il avait été dit que c'était des Pokémon ballon-sonde. Et nous avons bien précisé qu'il aurait été créé, selon le lore de Pokémon Ruby et Saphir, artificiellement à des fins météorologiques. Et ici nous allons aborder des Pokémon qui ne semblent pas être artificiels, ou du moins on ne nous l'a jamais précisé. Et pourtant le film numéro 14, celui sur Reshiram et Zekrom, a montré qu'il pouvait être utile dans l'univers de Pokémon, à se demander si son existence même n'a pas permis à cet univers parallèle de gagner du temps de recherche technologique par rapport à notre monde à nous, ou un truc du genre. En fait quand on y réfléchit, ce Pokémon-là pourrait relever plein de questions philosophiques. Un peu à l'instar de Zarbi, ce Pokémon de la deuxième génération possédant 28 formes, une pour chaque lettre de l'alphabet romain, ainsi que un point d'exclamation et un point d'interrogation. Est-ce que c'est l'alphabet qui s'est créé en fonction de Zarbi, ou les Zarbi qui sont nés avec l'écriture? C'est une vaste question et j'espère qu'un jour j'y consacrerai un épisode. Mais là, nous allons plutôt parler de cette famille de la cinquième génération, qui possède peut-être pas mal cette problématique là aussi. Mais malgré toute cette complexité dont nous allons étaler aujourd'hui, les fans de Pokémon qui aiment bien descendre la 5ème génération en règle générale préfèrent l'utiliser comme un exemple concret de très mauvais Pokémon. Alors qui est donc cette espèce qui semble renfermer énormément de sujets de conversation? Eh bien nous allons parler d'une famille de Pokémon à 3 membres, puisque nous allons parler des numéros 599, 600 et 601, Tic, Click et Clidiclic. Alors, Tic, Click et Clidiclic, cet épisode sera un enfer à prononcer, sont des Pokémon acier de la 5ème génération, et uniquement acier, et nous verrons plus tard que ce détail a son importance. Donc il s'agit d'une famille de Pokémon avec 3 représentants, l'un évoluant en l'autre. Commençons donc par Tic, un petit Pokémon de 30 cm pour 21 kg. Il est représenté par 2 roues dentées à 6 dents, possédant chacun la même tête. Ils forment à eux deux un engrenage absolument pas fluide, comme l'atteste leur animation dans le jeu noir et blanc. Après, chacun de ces deux rouages possède une tête clownesque, avec comme nez leur centre, donc il reste amusant. Un peu comme si la maladresse dont son visage semble mentionné justifie son mécanisme douteux. Mais le Pokédex nous dit quand même que cet engrenage tourne afin de s'assurer un minimum d'énergie vitale, donc on va dire qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais heureusement pour eux, au niveau 38, ils évoluent en Click. Et le plus gros changement est l'évolution de l'un de ces deux rouages, qui obtient une plus grosse surface à travers une grosse roue à 8 dents qui fait 30 kg à lui seul vu la différence de poids de ces deux Pokémon. De 60 cm, sa friction est clairement plus fluide, et selon le Pokédex, le gros envoie le petit rouage pour attaquer et communique en tournant. C'est pas mal intéressant, mais passons tout de même à l'étape finale de cette famille. Clidiclic donc est l'évolution de Click au niveau 49. Il fait exactement la même taille que sa pré-évolution, et pour cause, son principal et unique ajout est un nouveau rouage qui fait le tour de sa taille et qui tourne sur un autre plan que les rouages déjà présents. Toujours plus fluide et l'un des Pokémon acier les plus puissants de sa génération, ces rouages permettent d'alimenter son centre rouge en énergie afin de mieux attaquer selon le Pokédex. Un mécanisme bien complexe pour assurer sa puissance quoi. Ou alors un semblant d'énergie vitale, enfin peut-être. Bref, vous l'aurez compris, ces Pokémon tournent autour de la thématique du mécanisme et du mouvement perpétuel. Leurs engrenages sont en fait vivants et tournent pour assurer leur survie, et il est clair que les humains du Pokéworld l'utilisent pour eux aussi. On nous le confirme d'ailleurs dans le film 14 où Clidiclic servirait à alimenter un hélicoptère, rien que ça. De plus, c'est pas anodin que Clitixlix soit introduit à Unis. J'en ai déjà parlé, cette région est marquée par l'industrialisation et la technologie. Faut dire aussi que cette zone s'inspire de Manhattan, c'est la région la plus moderne, et possède même des zones industrielles. De plus, si c'est la région la plus moderne, il y a peut-être une raison. Les tiques sont abondamment trouvables uniquement dans cette région, où se trouve également la grotte Électrolyte, un lieu bien chargé en électricité. À Kalos et Alola, les deux régions qui ont suivi, ils se font beaucoup plus rares. Les Uniciens ont eu de la chance de vivre dans une région qui leur donnait pas mal d'avantages et ont su l'exploiter correctement. Bref, Tic, Click et Clitixlix ont apporté de grosses ressources à leur région d'origine. Ils montrent bien que si des Pokémon sont des objets, c'est aussi potentiellement pour imaginer un monde où les humains possédaient déjà une technologie d'entrée grâce à eux. Et ça justifie pas mal le fait que le Pokéworld est quand même très avancé technologiquement, et ce, dès la première génération. On parle quand même d'un monde qui commercialise en masse des objets pouvant réduire les créatures dans des balles, quoi. Ces trois Pokémon justifient donc parfaitement cet aspect-là. Du coup, c'est intéressant, en fait. Après, on a aussi l'entièreté des Pokémon électriques qui justifie déjà pas mal tout ça. Mais là, qu'on ait un Pokémon qui permet au monde de ne pas avoir à se poser de questions d'entrée concernant le mouvement perpétuel, c'est plutôt un bon avantage. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est comment ils ont introduit ces trois Pokémon d'un point de vue stratégique et dans le metagame des jeux. Car sans pour autant être des foudres de guerre, ils possèdent notamment les talents plus et minus. En gros, des talents qui jouent sur la polarité, puisque si lors d'un combat double, l'un combat avec un autre Pokémon possédant l'autre talent, leur attaque spéciale se voit augmentée. Plutôt habile donc. On peut aussi parler de leur attaque signature, à savoir une attaque dont eux seuls possèdent, changement vitesse. En gros, si vous lancez cette capacité, leur attaque augmente d'un cran, tandis que leur vitesse augmente de 2. En gros, la force de traction augmente, et du coup, les engrenages tournent encore plus vite. C'est tellement bien pensé, en fait. Bref, ces Pokémon-là sont au fond pas mal bien imaginés. Ils s'intègrent bien dans cet univers, et permet même d'agrandir le lore de Pokémon, avec en plus un metagame qui cerne bien les facultés d'un engrenage. Ces Pokémon sont super cool au fond, on pourrait se contenter de ça et dire que Clitixlix est l'un des Pokémon les plus inventifs de l'univers. Sauf que... bah non. Il n'y a des choses à dire, vous imaginez bien que si on faisait un épisode sur un Pokémon aussi parfait comme ça, ça serait totalement contre-productif. Déjà, bah on gueule encore sur le fait que c'est des Pokémon objets. Mais qui plus est, il s'agit de Pokémon identiques qui ont fusionné pour donner Tic. Mais enfin, une roue dentée toute seule, ça n'aurait quand même eu aucun intérêt à mon avis. Genre, justement, l'intérêt c'est qu'il puisse bouger grâce à la mécanique, aussi plus fluide soit le mouvement au tout début. Mais bon, voilà. L'autre truc qu'on peut lui reprocher, c'est son nom. Tic, Click, Clitixlix. Mais en fait, ben, il s'agit d'onomatopée, qui marque lorsqu'un engrenage tourne d'un cran, et qui souligne bien le fait que ça s'accélère petit à petit. Clitixlix. En tout cas, c'est pas mieux en anglais, où c'est Kling, Klang et Kling Klang, donc cette fois des onomatopées de lorsque l'on tape sur du métal. Et le pire est en allemand, où c'est Click, Clic-Clac et Clidiclac. C'est bizarre et ça donne des noms pas terribles du tout, mais d'un autre côté, c'est plutôt cool d'avoir choisi ce genre de bruit comme nom de créatures qui, je le rappelle, sont prévues pour prononcer uniquement leur nom. Comme tout le reste, je trouve que ça permet d'encore mieux ancrer cette famille dans cet univers, donc pour moi, c'est très positif. Et puis, ça aurait pu être pire, au Japon c'est vraiment chelou. Là-bas, Tic se nomme Gyaru, donc Gear en grenage en anglais prononcé à la japonaise, tandis que Click c'est Gigyaru. Et Clitixlix, c'est Gigigigaru. Enfin, le plus gros reproche qu'on lui évoque, c'est sa manière d'évoluer. En effet, voilà, au départ, nous avons Tic, deux rouages, son évolution est exactement le même Pokémon avec un gros engrenage derrière, et le troisième, c'est toujours le même, avec toujours cet engrenage et une ceinture. Niveau évolution, c'est sûr qu'on a vu mieux, on peut le comparer à la famille de Sorbébé dans la même génération, où là aussi, c'est juste des ajouts à chaque stade. Là, effectivement, on a l'impression qu'on se fout pas mal de notre gueule, et que c'est une grosse absence d'imagination. Genre, est-ce que rajouter des trucs donne des évolutions? C'est totalement stupide. Alors en fait non, c'est cet argument qui est stupide. Mais hélas, c'est bien ce qu'on entend le plus concernant cette famille. Si Tic, Click et Clitixlix sont autant reniés, c'est parce que leur évolution paraît trop basique. Oui, leur image se ressemble et on peut carrément confondre Click et Clitixlix. Mais si on prend un peu de recul, on comprend très rapidement, et comme d'habitude, pourquoi ils ont fait ça. Donc allons-y, prenons un peu de recul et essayons de comprendre pourquoi Tic évolue ainsi. Donc pour commencer, entamons la question que vous vous êtes très certainement déjà posée une fois dans votre vie. Qu'est-ce qu'un engrenage ? Un engrenage est un système mécanique composé de deux roues dentées et servant à produire de l'énergie via du mouvement. Bon, ça serait long à vous expliquer comment ça marche, mais sachez que le premier à l'avoir théorisé, faute de preuves inverse, n'est autre que Aristote au 5e siècle avant notre ère. Ça a été ensuite utilisé un peu partout en Grèce, notamment à des fins astronomiques, puis énormément repris au Moyen-Âge pour pouvoir soulever des lourdes charges. Bref, on pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose découvert durant l'ère industrielle, en réalité ça a toujours existé. Pas forcément en acier, genre on en a retrouvé des roues dentées en bois, mais nous avons toujours utilisé ce système mécanique. Et puis justement est venue l'ère industrielle, et plus précisément l'année 1781. L'ingénieur écossais William Murdoch imagina un nouveau système d'engrenage, ce qu'on appelle l'engrenage soleil et planète. En gros, on rajoutait un plus gros rouage derrière l'un des deux qui suivait le mouvement, ce qui permet de mieux tracter un moteur, notamment pour une machine à vapeur. Vous aurez alors sans doute reconnu Click, qui s'inspire directement de ce système. Une évolution du simple engrenage basique en somme. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le grand mais le petit rouage qui gère le mouvement. Du coup, est-ce qu'on a saisi où était en gros le cerveau du Pokémon et pourquoi le gros rouage est aussi inexpressif? Bon, malgré son efficacité, l'engrenage soleil et planète était pas énormément utilisé puisqu'il ne répondait pas à la concurrence du système à manivelle, qui est encore aujourd'hui la norme en matière de machines à vapeur et de moteurs à piston. D'ailleurs, l'engrenage soleil et planète était au départ créé parce que le système de manivelle était breveté. Donc en fait, Click est un suppôt du capitalisme. Mais ça n'a pas empêché ce système d'encore évoluer avec l'ajout d'un nouveau rouage externe concernant le fameux centre rouge et surtout d'un couple conique. Apparu encore plus tard, il s'agit d'une roue qui est tractée via des rouages sur sa surface. En gros, c'est ce qui ceinture Click-Click en fait. C'est une technologie pas beaucoup utilisée, mais on la retrouve notamment dans les motos de BMW. Après, on va pas se le mentir, il y a tout de même un problème avec ce nouveau rouage. C'est que le couple conique n'est pas fait pour améliorer la vitesse rotative d'un mécanisme, mais au contraire, pour la réduire. Sur les motos subsidées, cette roue dentée sert notamment de frein. Et là, c'est plutôt bizarre parce qu'on aurait plutôt pensé que ça permettrait d'encore plus améliorer la famille. Pourquoi a-t-il un truc qui amortirait sa vitesse, sachant que celle-ci est, comme nous l'avions vu avec son attaque changement vitesse, sa principale source de pouvoir? Est-ce que justement c'est pour éviter qu'il aille trop vite et qu'il détruise tout son système mécanique? En fait, on est juste sur une fausse piste, puisque la présence de cet amortisseur est liée au fait qu'il est doté désormais d'une source d'énergie bien précise, à savoir le fameux centre rouge dont le Pokédex nous parle. Cette source est-elle électrique, nucléaire, autre chose? Nous n'avons peu d'informations à ce sujet. Enfin, si. La seule chose qu'on ait est que Click-Click a toujours le type acier uniquement, donc ce n'est pas électrique. Sauf qu'il peut apprendre par niveau des attaques comme coup de jus ou élécanon, donc ça a des chances d'être quand même électrique. Donc bah en fait on sait pas, on a concrètement aucune information à ce sujet, hormis le fait que c'est bel et bien la principale source d'amélioration entre Click et Click-Click. Et bon, l'histoire nous a montré que si c'est cool d'avoir un condensateur, c'est mieux d'éviter que celle-ci n'explose dû à un surplus d'énergie, quelle que soit la nature de la petite énergie. Donc pour moi ce frein est la sécurité de Click-Click, celle qui permet d'éviter toute explosion trop dangereuse. Au passage, une autre amélioration entre Click et Click-Click pourrait exister. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration invisible qui n'est même pas mentionnée par le Pokédex, cela pourrait être supposé. Car au fond, nous avons vu qu'il peut amortir sa vitesse, mais absolument rien nous est donné concernant son amélioration. Et là, nous allons parler d'un indice dans ce Pokémon que nous utilisons rarement, à savoir les niveaux d'évolution entre les trois Pokémon. En effet, Tick évolue en Click au niveau 38, et Click évolue en Click-Click au niveau 49. C'est pas très commun comme chiffre quand même, et même plutôt bizarre. Pourquoi avoir choisi ces niveaux d'évolution? Alors pour Tick, la seule source fiable est que dans les casinos, les roues ont 38 cases. Et comme les deux tournent, ben c'est pas impossible qu'ils aient choisi cette raison, aussi chelou soit-elle. Bon ben, on dit que c'est ça? Allez, par contre, pour l'autre évolution, il y a des choses intéressantes. Car en chimie, et selon le tableau périodique des éléments, le métal qui se cache derrière la case numéro 49 se nomme l'indium. Il s'agit d'un élément qui a eu un énorme impact dans toutes les technologies modernes. Déjà en mécanique, il est utilisé comme élément anti-friction, ce qui réduit fortement les frottements et améliore les engrenages. Donc autant dire que ce niveau prouve donc que Click-Click pourrait en posséder sur ses rouages, ce qui explique sa plus forte puissance par rapport à ses pré-évolutions malgré son frein. Bon, c'est juste une théorie, mais c'est intéressant car ça colle complètement et justifie encore plus la puissance de notre Pokémon. Et concernant les autres utilisations de l'indium, eh bien, nous allons ouvrir une petite parenthèse écologique, qui n'a rien à voir avec Click-Click. Parce que c'est pas parce qu'on fait un podcast sur Pokémon qu'il faut pas vous sensibiliser sur certaines choses. Car même si vous ne connaissiez sans doute pas ce nom, l'indium est peut-être l'un des éléments les plus utilisés depuis les années 2000. C'est simple, vous ne le savez pas, mais vous êtes entouré par ce métal. Oui, même en ce moment, où que vous soyez. Vous en touchez sans doute actuellement même. Car en plus de ce que je vous ai raconté concernant son utilisation dans la mécanique pure, ce métal est aussi utilisé comme composant dans les soudures ou comme revêtement anticorrosif. Mais aussi et surtout, c'est un élément essentiel dans tout ce qui est écran tactile, écran à cristaux liquides, donc tout ce qui est écran LCD, et cellules photovoltaïques, c'est-à-dire les composants utilisés pour faire des cadres solaires. Pour vous donner une idée, votre smartphone possède au minimum 1 gramme d'indium, pour un total de 1210 tonnes récupérées rien que durant l'année 2009. De ce fait, on estime que les mines d'indium, parce que c'est loin d'être une ressource illimitée, seront totalement épuisées en 2025 et il n'existera plus aucune trace en 2030 de ce métal très difficilement recyclable. Donc même si des solutions nanotechnologiques commencent à être imaginées, bien qu'aucun ne soit vraiment concluant pour le moment, dites-vous que la fin des smartphones est potentiellement proche en fait, et que nous avons là une preuve de la surexploitation des ressources naturelles par les humains. Et bon, les plus technophobes d'entre vous se diront que c'est pas bien grave, c'est pas une technologie essentielle à la vie. Certes, mais après, quelles seront les prochaines ressources qui disparaîtront? Parce qu'au fond, rien n'est illimité, et quand je vois que le fameux jour du dépassement, jour symbolique, qui indique la date théorique, nous avons consommé toutes les ressources produites sur l'année écoulée, arrive de plus en plus tôt chaque année, ça me fait grave flipper pour l'avenir. Bref, désolé pour cette discrétion fataliste et déprimante. Revenons à Pokémon. Donc pour résumer tous les bails autour de Tic-Clic et Tic-Clic-Clic, c'est que c'est un Pokémon qui n'évolue pas vraiment, mais plutôt qui s'améliore en obtenant de nouveaux appareils technologiques. Et pour un Pokémon qui semble plutôt être un robot, c'est plutôt logique en fait. C'est comme ça qu'il se fortifie. Il garde son cœur, son âme de quand il était juste un tic, et les mécanismes autour permettent d'améliorer ce cœur pour le rendre plus puissant. C'est limite frustrant que son dernier stade d'évolution ne soit pas une voiture ou je sais quoi, mais en vrai, même ça c'est logique. Car Tic-Clic-Clic est le Pokémon de la mécanique et pas d'une construction concrète. D'après le lore de Pokémon, il est utilisé pour faire marcher des appareils, pas pour être lui-même un appareil. Il y a un Pokémon qui est un ensemble d'engrenages pour former un truc concret, ça existe déjà, il s'agit de Magearna, une poupée mécanique créée artificiellement dans la 6ème génération, possédant également des rouages et qui s'inspire de jouets mécaniques du 18ème siècle. Mais nous avons déjà parlé de Magearna dans l'épisode sur Sylvalier. Donc voilà, nos trois Pokémon acier sont des représentations des appareils mécaniques, d'où leur système d'évolution. Et plus que ça, ce sont même des symboles de l'industrie. Car au fond, si on analyse chacun d'entre eux, on retrouve des étapes importantes de l'histoire de la mécanique. Tic, c'est sa préhistoire, quand on commençait tout juste à théoriser sur le mouvement perpétuel, sa vitesse rotative est très saccadée, mais au moins ça marche et c'est tout ce qui compte. Puis on a Click, qui est une amélioration concrète de Tic. Utilisé sur des machines à vapeur, on présente l'ère industrielle lorsqu'on essayait d'améliorer le mieux possible les mécanismes pour améliorer la production. Avec même une petite référence au combat de brevets lors des débuts du capitalisme. Et enfin on a Tic-Clic-Clic, la mécanique moderne. Celle-ci n'est plus la principale source pour faire marcher les appareils, mais sert à les alimenter en énergie le plus possible, avec tout de même une attention gigantesque pour éviter la catastrophe écologique, bien qu'il utiliserait un métal rare pour éviter les frictions sur ses rouages. C'est intéressant tout ça car ça donne vraiment un sens à cette ligne évolutive. Chacun d'entre eux a un but et fait référence à des étapes historiques. T'as assez cool en fait. Alors vous gueulez toujours sur leur ligne évolutive, pourtant bien plus complexe que celle de Magnity? Après en vrai, si on critique autant la famille de Tic-Clic-Clic, c'est aussi et surtout parce que la 5ème génération se fait pas mal injustement insulter. J'en avais déjà parlé dans les triple épisodes à ce sujet, où j'avais expliqué que cette génération était détestée, car on se contentait trop de la première apparence. Mais si on creuse bien, on voit tout ce que chaque Pokémon de cette génération renferme. En fait, chacun des 156 créatures renferme un background assez intéressant et bien pensé qui décrit parfaitement chaque aspect des États-Unis. C'est pour ça que j'adore cette génération, c'est une vraie mine d'or sans fin. Et du coup, quand on pense aux USA, on pense forcément à l'industrie et à la modernité, deux choses dont Unis répond parfaitement, tout comme Kanto à son époque. Et Kanto, qui je le rappelle s'inspire de la région de Tokyo, avait parfaitement répondu à ça avec notamment Magnity et Magneton, mais aussi pas mal de Pokémon qui marquent la pollution comme Tanmorph et Smogogo. Et à Unis qui s'inspire de New York, on a pareil. Nous avons évidemment Miasmax, dont nous avons déjà parlé, ainsi que donc Tic-Clic-Clic. Mais il y a tellement de parallèles insoupçonnés entre ces deux régions, expliqués notamment par le fait que la 5G se voulait être un renouveau de la licence. A tel point qu'on pourrait trouver un équivalent de chaque Pokémon de Kanto dans les Pokémon de Unis. Mais on s'égare complètement. Mais du coup, Game Freak a voulu faire un Pokémon marquant l'industrie, justement pour pouvoir bien mettre en avant cet aspect-ci des États-Unis. Et justement, la forme des rouages et l'engrenage en eux-mêmes est le symbole le plus répandu de l'industrie. D'ailleurs, Game Freak n'est pas le premier à utiliser ce symbole, car on retrouve cette forme dans les armoiries de Laos, du Vietnam et de Birmanie, trois pays asiatiques qui ont bien été marqués par tout ça dans leur histoire récente. Mais aussi dans la plupart des grandes écoles ayant un lien avec les études mécaniques. Et puis bon, avouez que si vous voyez une roue dentée, vous pensez direct à l'industrie. Bref, je crois que nous avons fait le tour. Donc pour résumer, tous les bails, tic, clic et cliti-clic, sont les Pokémon de l'industrialisation, de la mécanique et du mouvement perpétuel. Mais plus que tout ça, ils symbolisent parfaitement l'industrialisation au sein même de l'univers de Pokémon, et c'est pour ça qu'on les aime. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Cette famille de Pokémon était peut-être l'un des sujets qui m'était le plus demandé, avec un Solurdo, alors que j'ai déjà fait un épisode sur un Solurdo. Donc j'espère que vos espérances ont bien été remplies, et que comme d'habitude, vous verrez ces trois Pokémon assis d'un nouvel œil. Ainsi que la 5ème génération et les Pokémon objets en règle générale, mais ça, je vous en ai déjà suffisamment rabâché cette année. Bref, dans 15 jours, vous aurez le dernier épisode de la saison, avant des vacances bien méritées. Puis à la rentrée, retour au Bercail avec peut-être quelques surprises. Mais je vous en dis pas plus. Dans tous les cas, le Poké Freak Show est une émission produite par Radio Kawa, et n'hésitez pas à consulter ce qui se fait dans le réseau de podcasts. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours pour un épisode que je vais vous teaser après la musique. Ciao! A cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't make plans, you're broke. No, no, this can't be right. I know the time is tight. I've only just been paid 3 weeks, 5 days till I've seen juin 2019. Ça y est, l'avant-dernier épisode est sorti. La saison a presque atteint la fin, et je crois que j'ai su défendre tout ce que je voulais jusqu'à présent. Mais bon, maintenant que tout est fini, il me reste juste un truc à accomplir. Un Pokémon dont il faut que je parle. Ce Pokémon qui me hante depuis des années. Est-ce que je vais enfin leur avouer la vérité sur celui-là? Est-ce que ça va les intéresser? Je sais pas. Mais bon, il faut que j'en parle. Plus qu'à préparer ça.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.